Luc chapitre 2. Je vais commencer à lire à partir du verset 21, mais avant cela, j'aimerais commencer avec une citation d'un romancier du 19e siècle, un certain Wismans, Joris Karl Wismans, qui parle d'un homme qui était en train de rêvasser dans l'église de Saint-Sulpice. Maintenant commence la citation. Un brouhaha le ramena à Saint-Sulpice. La maîtrise partait, l'église allait se clore. « J'aurais bien dû tâcher de prier, se dit-il. Cela eût mieux valu que de rêvasser dans le vide ainsi sur une chaise. Mais prier, je n'en ai pas le désir. Je suis hanté par le catholicisme, grisé par son atmosphère d'encens et de cire. Je rôde autour de lui, touché jusqu'aux larmes par ses prières, pressuré jusqu'aux moelles par ses psalmodies et par ses chants. Je suis bien dégoûté de ma vie, bien las de moi, L-A-S. Mais de là à mener une autre existence, il y a loin. Et puis, si je suis perturbé dans les chapelles, je redeviens inému et sec dès que j'en sors. Au fond, se dit-il, en se levant et en suivant les quelques personnes qui se dirigeaient, rabattues par le Suisse vers une porte, au fond, j'ai le cœur racorni et fumé par les noces. Je ne suis bon à rien. » Fin de citation. Voilà la citation avec laquelle Michel Houellebecq commence son roman « Soumission ». Alors, avertissement, je vais gâcher la fin de ce roman « Soumission ». Si vous voulez ne pas entendre la fin, vous pouvez vous boucher les oreilles, je vais vous faire signe. Okay? À la fin de ce roman, le protagoniste, personnage principal, se convertit à l'islam. On a l'impression que c'est moins par désir de répondre à un besoin de cœur racorni et fumé que par désir de tripler son salaire et de pouvoir avoir 4 épouses. Ok, avertissement, vous pouvez déboucher les oreilles là pour ceux qui ne voulaient pas perdre. C'est pas, vous pouvez encore lire le roman même s'il y a des scènes pas très chrétiennes, disons. Mais on sait que ce protagoniste chez Houellebecq au XXIe siècle ou chez Wismans au XIXe siècle sent un besoin, un dégoût de sa vie, être là. Fatigué de moi. Je n'irai pas jusqu'à dire que ce sentiment est parfaitement universel, mais beaucoup connaissent, peut-être de temps en temps, ce sentiment de fatigue, de ne pas être satisfait de soi-même, de sa vie. Nous sommes souvent inconsolés. Et pourtant, il y a cette résistance profonde à toute idée de changement, de mener une autre existence, comme le dit Wismans. Ce matin, je vous propose de méditer ceci. Et si c'était possible de connaître des changements profonds qui touchent même à les ressorts les plus profonds de nos cœurs, comment serait-ce possible? Qu'est-ce qui pourrait changer cela? Dans Luc chapitre 2, nous allons lire le récit de deux personnes qui ont été transformées par une rencontre alors qu'elles étaient âgées. Et peut-être à certains niveaux fatigués, deux vies transformées par une rencontre, transformées par un changement profond, un changement, je vous propose ce matin, que nous soyons croyants ou pas, qui pourrait nous faire du bien. Donc Luc chapitre 2, je vais commencer à lire au verset 21. 8 jours plus tard, ce fut le moment de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus. Nom que l'ange avait indiqué avant sa conception. Quand la période de leur purification prit fin, conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle, premier-né, sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice un couple de tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse. Car mes yeux ont vu ton salut, Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était d'un âge très avancé. Elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari après son mariage. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Arrivée elle aussi à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Après avoir accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant grandissait et se fortifiait. Il était rempli de la sagesse et de la grâce de Dieu était sur lui. Jusqu'ici, la parole de Dieu. En gros, ce texte nous parle du bébé Jésus qui est consacré à Dieu, nous montre que ce moment permet à Siméon d'être consolé, mais aussi d'avertir la mère de Jésus, de ce qui vient. Et ce texte parle de cette consécration permettant à Anne, prophétesse, de bénir Dieu. On va voir ça en 2 parties, consécration, consolation, et puis avertissement, action de grâce. Consécration, consolation, et puis avertissement, action de grâce. Donc la première partie, consécration, consolation. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 13, l'Éternel dit à Moïse, « Consacre-moi tout aîné, tout premier-né parmi les Israélites, tant des hommes que des animaux. Il m'appartient. » Tout premier-né appartient à l'Éternel. Alors, c'est l'Éternel, celui dans l'Exode, qui fait sortir le peuple de l'esclavage, ce Dieu sauveur. Et dans un sens, donc, tous appartiennent à Dieu, mais il faut que le premier-né, ce qui est le plus précieux dans un sens, je reviendrai là-dessus, soit tout particulièrement consacré à Dieu. Et dans tout le récit biblique, en fait, le premier-né, c'était Adam. Et puis, Israël, collectivement, joue ce rôle de premier-né, du fils aîné, du peuple élu qui, collectivement, est uni devant Dieu. Et souvent dans la Bible, dans le prophète Osée, par exemple, c'est très explicite que Israël, c'est le premier-né de Dieu. Jésus, ici, est consacré en tant que premier-né, verset 23, et il est donc le premier-né par excellence, le meilleur de tous les premiers-nés. Alors, consacrer son enfant, c'est dire, en fait, ce que nous avons de plus précieux, Seigneur, ça t'appartient, ça nous vient de toi, et donc nous exprimons notre reconnaissance et aussi notre conviction que cet enfant doit t'appartenir. À l'époque, le premier-né n'était pas juste la gloire de ses parents, comme ça l'est dans un sens aujourd'hui. Le premier-né, c'était aussi leur assurance chômage, leur assurance maladie, leur retraite et peut-être d'autres choses encore. L'attente à l'époque, c'était que le premier-né et son épouse étaient responsables de prendre soin des parents dans leur maladie, dans leur vieillesse. C'était une sécurité. Marie et Joseph donc consacrent ce qu'ils ont de plus précieux à leur Dieu. Ils offrent le sacrifice de tourterelle ou pigeon, le sacrifice des familles modestes. Les familles riches pouvaient offrir un agneau. On reste dans la logique de modestie financière de cette famille dont l'enfant a été placé dans une mangeoire. Mais ce qui est essentiel ici, ce n'est pas les ressources financières ou manque de ressources des parents, mais c'est qu'ils sont fidèles, ils font ce qu'ils devaient faire, ils font ce que la loi leur demande de faire. Voici un premier-né dévoué à Dieu, un premier-né en règle, fidèle. Dans toute sa vie, Jésus va accomplir ce rôle du premier-né. C'est le premier pas en termes d'action selon la loi. Hein. C'est un peu la première étape dans cette vie où Jésus va accomplir la loi, va pleinement obéir à tout ce que la loi demande. Il va être ce premier-né qui réussit là où Adam avait échoué, qui réussit là où Israël avait échoué. Il sera ce premier-né qui ne trébuchera pas, qui fera tout parfaitement, le meilleur des premiers-nés. Et ainsi qui met fin au besoin qu'on a d'un premier-né. Nous avons tous, dans un sens, besoin de ce premier-né pour accomplir le projet divin du peuple, que Dieu avait pour son peuple. Ce premier-né doit donc rentrer dans sa tâche de premier-né pour nous, pour notre bien. Il doit aussi grandir humainement, comme nous en parle le verset 40, hein, se fortifier, d'être rempli de sagesse et grâce de Dieu. C'était un homme, un enfant, un bébé, puis un être humain, pleinement humain, pour être le premier-né parfait. Il ne fallait pas juste que Dieu apparaisse, il fallait qu'il soit homme. Il fallait qu'il soit notre premier-né parfait. Alors, si on peut imaginer qu'on est tous Jamaïcains, et c'est en 2012, on regarde à la télé la finale des 100 mètres au JO de Londres, et il y a Usain Bolt qui gagne une victoire magnifique et qui réjouit les cœurs de tous les Jamaïcains, en tout cas tous ceux qui s'intéressent à l'athlétisme au moins, et qui joue ce rôle d'un premier-né parfait, qui représente son peuple. Nous avons dans Luc chapitre 2 le premier-né parfait. Quelle bénédiction. Autre exemple, imaginons une famille avec plusieurs enfants. Et il y a une entreprise familiale. Et les enfants, en grandissant, réalisent qu'il y a cette attente, plus ou moins dit peut-être des parents, qu'un des enfants reprenne la boîte, hein, et fasse fonctionner, que ce ne soit pas une entreprise qui se termine au moment où le père prend sa retraite. Tous se disent « Ah, qu'est-ce qui va se passer ?» Eh bien, l'aîné, il fait des belles études, il fait, je ne sais pas, l'école des mines, l'école centrale, et puis il revient, une petite expérience professionnelle, et il reprend l'entreprise familiale. Et les autres enfants, on peut aller faire des trucs qui nous intéressent, et pas juste cette entreprise-là. Quel privilège d'avoir un grand frère parfait, un premier-né consacré à l'Éternel, qui nous soulage, qui nous libère profondément. Consécration, consolation, verset 25. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur, le roi promis du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, la lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Un homme âgé, sans doute conscient que sa vie un jour va s'arrêter, que la mort n'est pas loin, qui espère la consolation d'Israël, qui attend la consolation d'Israël, et qui un jour a pu tenir entre ses bras la consolation de son peuple. Sa propre consolation, mais la gloire d'Israël aussi. Une lumière pour éclairer les nations. Depuis combien de décennies Siméon attendait-il cette consolation? Israël l'attendait depuis des siècles, au moins 5 siècles. Le monde, les nations, attendent depuis des millénaires une lumière, cet éclat divin, cette gloire. Depuis combien de temps votre voisin, votre collègue de travail, ce Parisien que l'on croise dans le métro, depuis combien de temps attendent-ils la consolation divine? Grâce à l'Esprit qui le pousse, qui le révèle des choses, Siméon voit un enfant, un bébé, et il voit le secours longuement attendu. Mes yeux ont vu ton salut. Il a vu un bébé, en fait. Vous savez, alors on a le privilège d'avoir 4 enfants, un bébé de 40 jours, il peut pas vous sauver d'une mouche. Je veux dire, il peut pas vous, je sais pas, on imagine un tout petit problème, il peut pas le régler. Voilà, c'est juste pas dans ses capacités. Et pourtant, Siméon face à sa mort est rempli de joie. Il voit un sauveur, celui qui nous sauvera de l'injustice qui est dans nos cœurs, celui qui nous sauvera du mal, celui qui nous sauvera du malin avec un grand M, de la mort du jugement divin. Quel contraste, un bébé, un sauveur tout-puissant. Quelle attente, quelle consolation Siméon a-t-il connu ? Vous me pardonnerez l'illustration, mais j'ai pensé au boson de Higgs. En 1964, un certain Higgs et aussi François Engler ont postulé l'existence d'une particule très petite qui expliquerait plein de choses. Et c'était le 4 juillet 2012 que le Centre européen de recherche nucléaire, le CERN, a confirmé l'existence de cette particule. Elle est très très petite, trop petite pour la voir, pour repérer son existence. Je cite, « L'existence du boson de Higgs est trop brève pour qu'on le détecte directement. On ne peut espérer observer que ses produits de désintégration, voire les produits de désintégration de ces derniers. On ne le voit jamais, on ne le mesure pas. Et pourtant, il permet d'expliquer pourquoi certaines particules ont une masse et d'autres n'en ont pas. » Donc voilà quelque chose de tout petit, vraiment. Dans un sens pas impressionnant, parce qu'on ne peut même pas le voir, et pourtant, en termes d'impact et de puissance explicative pour notre monde, très grand, très grand. Voilà, un bébé, un sauveur, une consolation. Siméon parle de lumière, une bénédiction, une révélation, quelque chose qui éclaire, qui permet de fleurir, de grandir, de s'épanouir. Et à l'époque où Siméon dit ces choses, il annonce le salut et la lumière pour éclairer les nations, combien de personnes comprenaient cela ? Peut-être Marie et Joseph, mais même plus tard, lors du ministère public de Jésus, ils ne comprenaient pas. Donc, on peut peut-être les compter, mais je ne suis pas sûr. Les bergers, ils avaient compris. Siméon, Anna, ils ont compris. Allez, on va dire 10 personnes. Lumière des nations, c'est beaucoup dire. Quelques décennies plus tard, Luc écrit ce texte, Lumière des nations. On compte les disciples par milliers, des juifs, quelques grecs, quelques romains. Quelle idée, quelle présomption de dire voici la lumière des nations, gloire d'Israël. Quelle présomption, quelle idée, quel privilège pour nous, 2000 ans plus tard, dire qu'aujourd'hui des centaines de millions, peut-être des milliards de personnes connaissent Jésus comme lumière et consolation. Je ne sais pas pour ici, peut-être c'est semblable, un dimanche ordinaire à l'Église éterne, on est entre 10 et 14 nationalités différentes. J'ai le privilège de connaître un pasteur qui est pasteur en Nouvelle-Zélande. J'ai regardé le globe, je pense que c'est un des points les plus loin géographiquement de Jérusalem. Il y a des milliers de chrétiens qui aiment Jésus comme consolation en Nouvelle-Zélande. Partout dans le monde aujourd'hui, il y a en effet celui qui est reçu comme lumière des nations, est accueilli et les gens se réjouissent de lui. Consolation de Dieu. Consécration, consolation. Passons à avertissement, action de grâce. Avertissement, action de grâce. Le texte nous annonce une lumière, une gloire, mais aussi une chute, pour être relevé, contradiction, une épée qui transperce l'âme de Marie. Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à donner un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme, ainsi les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. Voilà des avertissements pour Marie, en premier temps, pour d'autres aussi, pour nous, pour ceux du premier siècle qui ont été là pour voir Jésus, et encore les nations. Il y aura des moments difficiles. Jésus sera rejeté et Marie va en souffrir. Je note en passant que ceux qui annoncent ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité disent « voilà, si vous croyez vraiment, vous serez toujours heureux, béni, pas de chômage, pas de maladie, etc. » Marie, elle a souffert, elle a eu cette épée qui lui a transpercé l'âme, pas parce qu'elle était infidèle, pas parce qu'elle manquait de foi, mais parce que son fils a été crucifié. La Bible parle clairement des souffrances et des épreuves des enfants de Dieu, des, de ceux qui appartiennent à Christ, ça ne doit pas nous surprendre. Ce sont des avertissements utiles. Voici celui qui va apporter des choses difficiles aussi. Il n'y aura pas que lumière et gloire. Il y aura contradiction. Il y aura opposition. Il y aura révélation. Les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. Jésus a ce rôle-là de rendre évident et manifeste des choses intérieures et cachées. Où est-ce que je me place par rapport à Dieu? Où en suis-je avec Dieu? Dans la citation de Huysmans avec laquelle j'ai commencé, il y a un homme qui se dit, est-ce que la foi, ça aurait un intérêt? Peut-être je devrais prier. Mais finalement, c'est trop compliqué, trop d'efforts. La paresse l'empêche d'aller de l'avant. Jésus révèle son cœur. Jésus révèle quelque chose là. Il aimerait bien changer, mais il refuse de faire l'effort. Il y a un avertissement là. Jésus révèle des cœurs. Et la parole de Jésus, ce qu'on appelle la Bible, révèle nos cœurs. C'est parfois pénible, mais on a besoin de ça pour avancer. Qu'il révèle nos pensées, nos motivations. Il y a quelques mois, René Girard est décédé. Il était membre de l'Académie française, il était professeur à l'Université de Stanford, il était anthropologue, et il a critiqué les intellos français qui ne connaissaient pas la Bible. Je cite la Nécrologie du Monde. Cet engagement religieux, il parlait beaucoup des Écritures, était souvent pointé par ses détracteurs, pour lesquels sa prose relève plus de l'apologétique chrétienne que des sciences humaines. À cela, l'anthropologue répondait que les évangiles étaient la véritable science de l'homme. Et maintenant, dernière phrase de l'article. Exégète à la curiosité sans limite, il opposait à la férocité du monde moderne, à l'accélération du pire, la virtuosité tranquille d'un lecteur qui n'aura jamais cessé de servir les Écritures. Fin de citation. Pour René Girard, être ignorant des évangiles, c'est être ignorant. Je ne dis pas que Girard pensait forcément que Jésus révèle les cœurs dans le même sens que peut-être nous le pensons, mais il me semble que si on pense que les évangiles, c'est la vraie science humaine, c'est savoir qu'il y a une puissance dans les paroles et dans les actes de Jésus pour nous faire comprendre des choses qu'autrement on a du mal à comprendre. Avertissement, action de grâce. Anne était prophétesse. Et après, donc, le prophète Siméon, une prophétesse. Petite note de traduction sur les versets 36 et 37. Il se peut que 84 ans ne soit pas son âge, mais le nombre d'années qu'elle a vécues en tant que veuve, depuis son veuvage. Donc, si elle était mariée à l'âge de 14 ans, elle a vécu 7 ans avec son mari, ça fait 21 ans. 84 ans, ça lui fait 105 ans à peu près. Après, bon, peut-être qu'elle a 80 ans, peut-être 84 ans, peut-être qu'elle a 105 ans. En tout cas, elle est très âgée. Elle est pieuse, elle est là au temple, elle jeûne, elle prie. Et quand elle voit Jésus, elle est juste pleine de reconnaissance. Elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu. Elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Voici celui qu'on attendait. Voici ce secours dont on avait besoin. Un enfant, un bébé. Une délivrance, une libération. Pour nous qui connaissons cette délivrance, qui avons goûté à cette consolation qu'il y a en Jésus-Christ, est-ce qu'on prend du temps pour exprimer notre reconnaissance? Est-ce qu'on se réjouit? Est-ce qu'on a ce témoignage simple et joyeux? Voici la délivrance, voici le secours. Anne a connu cette libération vraiment à la fin de sa vie. Quel privilège pour nous, en tout cas pour la plupart d'entre nous, qui l'ont connu beaucoup plus jeune que cela. Nous avons le privilège de beaucoup plus d'années de reconnaissance et de témoignages joyeux. Avertissement, action de grâce. Est-ce que nos cœurs ont besoin de consolation? Est-ce qu'on se sent parfois racorni, fumé? J'aimerais lire Ésaïe 60, je pourrais lire 49, mais je vais juste citer Ésaïe 60, versets 1 à 3. Si vous voulez suivre, c'est page 836 dans ces Bibles, vous pouvez simplement écouter si vous le souhaitez. Ésaïe 60. « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi l'Éternel se lèvera, sur toi sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. » Voici ce que l'Éternel dit à son serviteur. Moi, je me lèverai sur toi, et donc ta gloire apparaîtra, et donc tu seras une lumière pour les nations. Les rois même seront éclairés par toi. Des siècles avant Jésus, ce prophète Ésaïe a annoncé ces choses multiples fois, chapitre 49, chapitre 60 et autres. Est-ce simplement des paroles dans le vent, une sorte de poésie intéressante? Ou est-ce que ça nous a annoncé une réalité que Siméon et Anna ont connue, ont vécue, ont expérimenté? Une consolation profonde. À l'église d'Éterne, à l'église de la rue de Sèvres, nous sommes convaincus que cette même consolation est encore disponible, que le même esprit qui a travaillé dans le cœur de Siméon est à l'œuvre aujourd'hui à Paris. Peut-être vous n'êtes pas encore convaincus. Je vous invite à mettre Jésus à l'épreuve, à ne pas juste laisser ces choses passer à côté de vous, mais à tendre la main, peut-être juste ouvrir la main pour recevoir la consolation. Est-ce que ça vaut la peine de prendre le temps? Ne nous satisfaisons pas de la paresse qui consisterait à dire « changer de vie !» Ah, c'est trop me demander. Houellebecq parle de cette paresse concernant son protagoniste. Et bibliquement, c'est un péché, en fait. C'est un acte coupable d'avoir la bonté de Dieu à portée de main et ne pas ouvrir la main pour le recevoir. C'est grave, quelque part. Pour beaucoup d'entre nous, nous sommes convaincus que Jésus est lumière et consolation. Par son esprit, il nous a permis de goûter à ces choses dans nos cœurs. Et pour nous, un des défis de ce texte, me semble-t-il, c'est d'être publiquement reconnaissant, comme Anne. Que ce soit à la maison, que ce soit à d'autres endroits, prendre du temps pour dire merci. Moi, ça me fait du bien de temps en temps de prendre une feuille de papier et commencer à noter des choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Peut-être des personnes. L'autre jour, j'ai fait une longue liste, je crois qu'il y avait 200 noms à peu près, de personnes pour lesquelles je suis reconnaissante. Peut-être des choses. Et si cette consolation et cette reconnaissance sont bien ancrées en nous, cela mènera à un témoignage naturel, spontané, facile en quelque sorte, qui surgira tout simplement parce que nous sommes convaincus que Jésus est consolation et lumière. Au mois de décembre, j'ai vu deux films. Le premier s'appelle Le Pont des Espions, le deuxième s'appelle Star Wars 7, le je ne sais plus quoi. Bon, voilà. Alors, je les ai aimés tous les deux, hein. Je trouve qu'ils sont bien faits. Mais je vais juste dire deux mots sur le premier, un peu moins connu, Le Pont des Espions. Ça m'a touché parce qu'il y a un message assez clair dans ce film sur l'importance pour une démocratie de suivre les règles, d'honorer sa constitution, même quand on n'a pas envie de le faire, même quand les autres ne le font pas. C'est dans les années 50, guerre froide, situation compliquée, un espion communiste est arrêté et on veut juste le flanquer en prison. Et en fait, il y a un homme qui dit « Mais non, on a un processus, il y a un état de droit, il faut suivre les règles, même pour un espion communiste, on ne va pas violer nos propres règles, même si les autres, ils ne le font pas. » Et j'ai aimé ce film, j'en suis reconnaissant, mais j'en ai parlé avec des gens. J'aurais dit, c'est très bon, vous pouvez y aller. C'est un film qui fait réfléchir et puis ce qui est bien fait. Quel film pour vous? Quelle recette? Quel site web? Quelle application pour votre smartphone? Est-ce que vous recommandez avec joie et facilité? Avec simplicité, parce que ça vous a servi. Combien plus, chers amis? Combien plus on devrait, avec facilité, parler de l'évangile de Jésus. Et peut-être si on a du mal avec ça, on peut demander à Jésus d'ancrer sa consolation et une saine reconnaissance dans nos cœurs pour que cela soit simple et naturel. Prions que dans les mois à venir, Le Seigneur nous donne d'être convaincus de cette consolation, d'être convaincus de la lumière que Jésus a apportée, afin que nous ayons une attitude de reconnaissance et un témoignage simple et joyeux, des actions de grâce et peut-être une parole d'invitation, comme Anne. Consécration, consolation, avertissement, action de grâce. Prions ensemble. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Arrivée, elle aussi, à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Seigneur Jésus, nous te bénissons car tu es notre délivrance. Tu es notre lumière. Ton esprit a touché nos cœurs pour beaucoup d'entre nous. Donne-nous des cœurs reconnaissants. Donne-nous d'annoncer avec joie ton évangile. Et nous te prions que tu permettes à cet évangile de recevoir un bon accueil parmi un nombre toujours croissant de Parisiennes et de Parisiens. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen.